ici qu'ailleurs. J'ai des amis, moi, qui ont fait le contraire. T'sais, mes anciens voisins, c'est un couple, ils ont décidé d'aller vivre au Mexique. Ça a pris quelques années avant qu'ils aient leur citoyenneté, puis il n'y avait aucun problème, là. Ils passaient 6 mois là-bas, 6 mois ici pour pouvoir avoir l'assurance maladie, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ils ont dit non, nous, on va être mieux au Mexique, on va gérer notre entreprise à Québec, mais du Mexique. Ils ont des employés ici, puis ça a été extrêmement facile pour eux, là.
Oui, bien, l'inverse, c'est beaucoup plus facile, forcément. Parce que, bon, le Mexique n'est pas un pays riche.
Ouais.
Donc, il accueille les gens plus facilement parce que, bon, c'est une manière de faire rentrer de l'argent aussi au Mexique que d'accueillir des étrangers, mm-hmm. manière temporaire ou permanente. Mais c'est vrai, moi, ça a été plus facile à obtenir ma résidence permanente au Mexique que ma femme l'obtienne au Canada.
Ouais. Ton adaptation là-bas, toi, est-ce que ça a été facile? Bon, t'es un gars, t'sais, nécessairement, t'es très ouvert. T'aimes beaucoup voir ce qui se passe dans les autres cultures, les autres religions. Est-ce que ça a été facile, ton adaptation? Ou bien, il a fallu que tu prennes comme
une couple de
semaines de coussin, là?
Ouais, bien, c'est sûr. C'est tout un monde. Je raconte dans mon livre « Un Québécois à Mexico » aux éditions L'Armatan. C'est paru ça en 2021. Un livre qui a bien marché en passant. Les auditeurs peuvent regarder ça, mais un succès de librairie. On a même réédité au Québec. Ça a été publié en France d'abord, ensuite réédité au Québec pour combler la demande. J'en suis bien, bien content. Oui, c'est tout un monde, Mexico. Le Mexique, c'est pas juste la plage, vous savez. C'est tout un monde culturel. C'est un grand pays d'abord de 125 millions.
Ouais.
Donc, c'est à peu près grand comme la Russie en population. C'est la deuxième économie d'Amérique latine.
Mmh. On est 40 millions au Canada, en passant, pour les gens qui veulent faire la différence. 40 millions, puis on est vraiment plus au sud. Là. Au nord, il n'y a pratiquement rien.
On est-tu rendu à 40?
Oui, 40, 2023-2024.
OK, 40 millions, bon, on a passé cette étape-là. La ville de Mexico comporte 25 millions avec la couronne, la périphérie. Donc, c'était 3 fois le Québec à Mexico là, durant la pandémie.
Ouais.
Donc, c'est ça, le décalage. Ce qui était plus frappant, c'est vraiment la gestion de la pandémie au Québec versus au Mexique. On était vraiment dans deux univers. C'est pour ça, et ça a beaucoup coloré ma critique de la gestion de la pandémie.
Ouais.
Bon, il fallait comprendre un peu mon parcours, mais on était vraiment dans deux mondes. Puis c'est ça, le Mexique aussi reste un pays assez violent, dangereux à plusieurs endroits.
Ouais.
Donc, il faut composer avec cette réalité-là, les moyens de sécurité... Les gens défilent de barbelés devant chez eux, des pitbulls, les chiens là-bas, c'est des systèmes de sécurité. Il y a beaucoup d'enlèvements, des kidnappings. Moi, en bas de chez nous, à Mexico, j'avais des gardiens, là, en tout cas un gardien
mm-hmm.
qui est là pour...
veiller à la sécurité des résidents.
Oh, oui, okay. Ça c'est tout à fait normal. Et par exemple, il y avait un salon de coiffure à côté de chez nous, puis c'était pas rare de voir des femmes arriver avec des gardes du corps là, pour aller se faire coiffer. C'est vraiment une autre réalité. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas agréable. C'est très agréable. Moi, je suis un grand, grand fan de Mexico.
Ouais.
C'est tellement fort, tellement puissant. La culture latino-américaine, c'est moi pour moi, l'Amérique latine, là, c'est vraiment plus qu'un coup de foudre.
Ouais. Ils sont très près de leurs origines. C'est beau à voir. Puis moi, ce qui m'avait marqué, j'ai fait un voyage il y a de ça quelques mois. Puis je jasais avec les barman de...
j'avais vu ton poste.
D'un hôtel. Ouais, j'étais un peu magané quand je faisais cette vidéo-là. Là, c'est rare, tu vas me voir en chess sur une vidéo.
Ah,
là.
C'est vrai. Ben, écoute, je me rappelais pas de l'aspect vidéo.
Tu ouais, vois. C'est ça. J'étais dans mon lit puis j'ai décidé de raconter ça aux gens parce que c'est important de le faire. Tu sais. Des fois, il y a des gens qui ne sortent jamais du Québec puis ils savent pas comment ça se passe ailleurs. Puis ils ont l'impression ici que c'est terrible. Les amis, ici, on est relativement bien. Là. On erre des fois sur des trucs qui n'ont pas vraiment d'importance, puis on a l'impression que c'est super important, mais quand je leur ai raconté que ça fait des années qu'on parle d'un tramway, d'un troisième lien à Québec, puis c'est ce qui fait le jaser le plus dans l'actualité, ils m'ont regardé,
c'est
Jérôme,
ça, c'est...
ils m'ont dit, est-ce que tu sais que nous, c'est des morts violentes, des agressions sexuelles,
des féminicides,
des enlèvements, la grosse criminalité dans nos rues, c'est ça qui fait partie de l'actualité, oui, la politique, mais c'est vraiment ça notre actualité, puis je me suis comme senti cheap. T'sais, en tant que peuple, là, je me suis comme senti cheap en disant « Mais c'est vrai que nous autres, on s'en fait avec des affaires qui... » Ils veulent le construire, le pont, ils veulent pas le construire. On passe à d'autres choses après. Là.
C'est pour ça que j'étais très sévère envers le Québec comme tel durant la crise sanitaire. On me l'a beaucoup reproché. Mais de Mexico, du Mexique, je trouvais qu'on était un peuple qui se plaignait le ventre plein.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on s'est pas mal inventé des problèmes. Puis, c'est ça. Quand qui est arrivé le deuxième jour de l'an, tu te rappelles, et qu'on a interdit les rassemblements, alors qu'on était le seul État d'Amérique du Nord à faire ça et un des seuls États dans le monde à le faire, là, j'étais complètement bouleversé,
le couvre-feu.
Consterné. Le couvre-feu, évidemment, qu'il n'y a jamais eu à Mexico, ben, il y a une espèce de, à un moment donné, de... Les restaurants devaient fermer un peu plus tôt, là. J'ai connu ça, mais tu vois, quand arrivait l'heure du couvre-feu, entre guillemets, pour les restaurants, ce qu'on faisait, c'est que on prenait les chaises sur les terrasses dehors, puis on rentrait en dedans avec notre assiette. Ça, c'était le couvre-feu à Mexico,
ouais.
Ville de 25 millions. Puis tu sais, il s'est pas passé. Moi, quand je suis reparti en pleine pandémie, en janvier quelque chose, 2021... février, là, les gens, j'avais des amis qui me disaient t'es un malade, tu vas aller mourir là-bas. C'est... Parce que Mexico, on parlait de Mexico comme quoi il y avait des morts dans les rues. C'était le plus haut de la pandémie, c'était une des vagues les plus fortes à Mexico, au Mexique. Puis le monde me disait vraiment tu vas aller mourir. Tu prends la plus mauvaise décision de ta vie en retournant là. Ma femme était enceinte aussi. Puis finalement, on arrive à Mexico en pleine pandémie, le monde mange des tacos à des stands.
Tout est relax.
Passait pas grand chose de plus qu'avant. Là.
Ouais.
C'est les décalages qu'on a, les décalages en termes de perception, de vision des choses, d'une culture à l'autre, effectivement, ça peut être. On était à des années-lumière de ce qu'il faisait au Québec.
Ouais. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est beaucoup ton ouverture. T'aimes en savoir sur les autres. Puis, tu sais, je savais que tu avais étudié en sciences politiques. T'as ton bac en sciences politiques, t'as ton doc en sciences politiques, mais t'as fait aussi une maîtrise en sciences des religions. C'était-tu ton désir, ça, d'explorer pour voir de quelle façon fonctionnent les autres personnes?
Oui. En passant, je ne suis pas docteur. J'ai fait une scolarité de doctorat en sciences politiques, mais je n'ai pas le titre de docteur. J'ai arrêté au milieu, en gros. Maîtrise en sciences des religions, oui, je pensais que pour comprendre les univers culturels, les religions étaient fondamentales.
Mm-hmm.
C'est vraiment des structures de l'imaginaire. C'est des piliers, là, les religions. Et par exemple, on ne peut pas comprendre l'Inde sans comprendre l'hindouisme. On peut pas comprendre non plus la France sans le catholicisme, l'Occident en général sans comprendre le christianisme.
C'est leur base de valeurs fondamentales?
Oui.
Ouais.
En Inde, oui, ça c'est sûr. Puis les religions ont des grandes influences sur la pensée en général. Puis, tu sais, on regarde par exemple juste au Québec où vraiment le gouvernement, l'État a remplacé l'Église. Tu sais. On a des réflexes encore très religieux, puis on l'a vu devant la crise sanitaire.
Ouais.
À quel point on avait la Sainte Trinité. Legault, Arruda, Mécan au début, puis on avait la grande messe finalement.
Legault, c'était le curé.
Oui, c'était, ouais. Disons, c'était pas le pape, là, mais c'était Monseigneur quelque chose, Monseigneur Legault.
Ouais, exact.
Et on avait une espèce de consensus très, très chrétien, là, dans le sens où on attendait que la messe soit dite. Puis remarque, au début, je pense que c'était légitime, c'est un peu après, là. Je le rappelle aux gens, tu sais, les 6 premiers mois, tout le monde à peu près était d'accord avec la gestion de la crise. Tout le monde attendait de voir. Puis même que certaines personnes qui sont devenues critiques des mesures auraient peut-être été celles qui auraient en demandé plus au début par principe de précaution. Mais c'est à partir de septembre, rappelez-vous, c'est vraiment à l'automne, septembre, la rentrée scolaire. Tu sais, la pandémie a débuté en mars. Et moi, en mars, quand elle a débuté la pandémie, je suis en Colombie en passant. Je suis retourné à Mexico. Ça a été tout un rapatriement incroyable. Ouais, j'ai pas mal d'histoires à compter, là. Quel rapatriement. Ça a été compliqué.
Ouais.
Ça a été compliqué. Revenir. Il fallait que je fasse appel aux médias. On a publié un article. J'ai dit, là, faut que. Trudeau avait promis d'accepter les familles des ressortissants canadiens. Il accepta pas ma femme, alors que je venais de me marier à Mexico. J'étais en voyage de noces en Colombie, en fait. Et quand en Colombie, on regardait le journal, puis on se disait, c'est quoi ce truc-là de grippe chinoise? Puis quand on est revenu, le jour où on revenait de Cartagena à Mexico, là, c'est le jour où la ville de Montréal a comme décrété... l'état d'urgence a été décrété. Et là, je me suis dit, fuck.
Qu'est-ce qui se passe?
Parce que moi, j'avais pas peur du virus, mais j'avais peur que la société mexicaine s'effondre. Puis là, je me suis dit, on habitait à ce moment-là dans un quartier assez traditionnel,
ouais.
Pas nécessairement riche. Et là, je me suis dit, si l'économie mexicaine s'effondre, je suis vraiment dans la marde. Parce que je suis le seul blanc ici. Et s'il y a des gens ici qui ne mangent plus, c'est sûr que moi, je suis le premier qu'on va venir séquestrer. C'est pas des farces, là.
Ouais.
Et là, je voyais des voisins qui commençaient à s'installer, plus de protection encore. Des pads, des 2x4 de 20 maisons. Plus de pitbull encore. Il y a beaucoup, beaucoup de chiens à Mexico. Là, pis ça sert vraiment à, c'est des systèmes de sécurité. Les chiens sont violents. Là, pis c'est pas grave façon de jogging dans certains quartiers parce que t'as toujours un pitbull qui te court après. Là.
Mais quand t'as un billet comme ça s'installe en toi, c'est-à-dire je suis le seul blanc de la place, puis là, ça commence à aller mal, ça se peut que je sois le prochain et passer.
C'est ça.
Là, tous les regards des gens qui normalement sont amicales, t'as une autre interprétation de ces regards-là. Là.
Oui, puis ils ont quand même, la police a commencé à monter la garde devant les épiceries dans le quartier parce qu'il commence à avoir des pillages.
Ouais.
Donc, puis il y a beaucoup de gens sur les réseaux, bon, il y a certaines personnes, en fait, qui se moquent un peu de mon rapatriement parce qu'ils disent « Ah, Blanchet Gravel a eu peur, puis après, il peut pas admettre qu'il a eu peur. » Ben oui, d'abord, j'admets que j'ai eu peur, moins du virus que de la situation économique parce que le Mexique, tu sais, puis j'avais un ami à Mexico, un bon ami, Francis Langlois, un homme d'affaires là-bas. Et les deux, on était, ouais, il ne faut pas que le Mexique s'effondre. On regardait ce qu'on retourne au Canada. Puis même à un moment donné, je pense qu'il avait dit, si on reste ici puis que l'économie s'effondre, il faut s'acheter une arme. T'sais.
À ce point-là.
Ben écoute, c'est quand même rough, là, Mexico. Puis...
Là, ta femme est enceinte, ça devait être hallucinant.
C'était pas encore, mais pas encore. Ça s'en venait. Mais c'est sûr, ouais. Mais c'est des d'autres ambiances. Donc, pendant deux semaines, je regardais ce que je suis rapatrié. Puis, là, puis en plus, on disait qu'il allait plus avoir de vols internationaux.
Ouais.
Donc, finalement, on attrape un vol qui passait par Toronto. Et on décide qu'on est rapatrié parce que je me dis, je peux pas rester ici pogné au Mexique si jamais ça s'effondre. Donc, j'ai convaincu ma femme de venir passer un certain temps. Mais on est quand même retourné, imagine-toi donc, 7-8 mois après, il faut le faire. Ah, puis c'est encore la pandémie, le début. Mais
ça s'était calmé un peu.
Ouais, non, ça s'était rendu la plus grosse vague. Parce que la vague au Mexique a comme été retardée. Un peu une vague à rebours, si on veut. C'était spécial. Puis c'est quand est venue aussi l'affaire de l'interdiction des vols entre le Québec et le Mexique. Je te rappelle, le Canada et le Mexique, puis ce qu'on a appelé les destinations soleil. Ça aussi, c'était troublant parce que nous, on connaissait plein de Latinos. Qui ne pouvaient plus retourner voir leur famille, mettons que leurs parents étaient malades. La mère, par exemple, de ma femme, si elle venait malade ou si elle mourait, bon, elle est en forme, là, mais je veux dire, on disait, c'est sûr qu'on pourrait sauter les funérailles. Il y a plusieurs choses comme ça qui sont passées, là, durant la crise sanitaire, puis empêcher des gens d'aller voir leur famille pour des funérailles, tout ça, ça n'a pas été chic. C'est inhumain. Là.
Mm.
On aurait dû permettre au moins aux gens qui avaient des familles. Enfin.
Toi qui aimes beaucoup la liberté d'expression, j'imagine que tu as pogné un deux minutes quand tu t'es aperçu qu'il y avait des politiciens ainsi que des journalistes qui refusaient totalement toutes les idées qui allaient à l'extérieur des idées préconçues qu'on avait mises en place. Là.
Mm-hmm.
Ça devait te faire peur, ça, parce que à ce moment-là, on s'est aperçu que quelqu'un qui pourrait peut-être émettre une hypothèse avec une certaine expertise pourrait être automatiquement rejeté. Parce qu'il y avait un consensus scientifique qui disait que bon ben ça, c'était ça, puis on devait faire ça. À partir du moment où quelqu'un de l'extérieur disait quelque chose, ou qu'un journaliste, puis c'est arrivé à Sébastien Bovet d'ailleurs, il avait écrit un papier, puis François Legault l'avait appelé chez lui le soir pour lui dire le papier que tu as fait aujourd'hui, c'est pas le genre de papier que j'aime. Et d'ailleurs, ça avait été, il l'avait mentionné par la suite sur les ondes de radio, comme quoi le PM l'avait appelé. Là. Ça doit être assez impressionnant. Là. Je pense que c'était un courriel. Je pense que c'est un courriel, excuse-moi. Donc, le PM qui t'écrit, personnellement, en tant que journaliste, disait un peu, là, c'est qui se passe, là? Faut-tu vraiment que j'arrête de faire ma job?
Ça, celle-là m'avait échappé. Non, évidemment, je l'ai décrié durant toute la crise, cette absence de liberté d'expression. Puis on s'est aperçu, maintenant on s'en rend compte, mais il y a eu beaucoup de dommages collatéraux. Donc toutes les décisions qui ont été prises, c'était pas nécessairement les meilleures. Puis non, pendant un certain temps, ça a été une parenthèse de l'histoire du Québec. C'est-à-dire qu'on a mis quand même la démocratie libérale entre parenthèses à bien des égards durant 2 ans. T'sais, c'est quand même majeur.
Ouais.
Puis il y a beaucoup de gens qui disaient on est passé à autre chose, c'est fini, c'est bon, arrêtez d'en parler. Ouais, je comprends, mais moi je suis un intellectuel. Ouais. 2 ans. En 2021-22, c'est comme 100 ans en 1100. Là, vous comprenez que c'est ça. C'est
mais je ne sais pas toi.
Deux ans à l'époque moderne, c'est comme 80 ans au 16e siècle. C'est long, 2 ans à notre époque.
Ouais. Mais je ne sais pas toi, moi j'apprends de mes erreurs. Je pense que la majorité des êtres humains apprennent de leurs erreurs. Puis si jamais il y a une autre pandémie qui arrive dans 5 ans, T'as-tu l'impression qu'on n'aura pas appris la dernière pandémie?
Bonne question, très bonne question.
C'est souvent ce qui me fait peur. Moi, je me dis, t'as peur, là. Quand un gouvernement considère que sa gestion de la crise a été de 10 sur 10, c'est François Legault qui l'avait mentionné d'ailleurs, c'était comme expliqué par la suite, mais il avait dit que c'était 10 sur 10. Tu dis, t'as peur, ça arrive dans 5 ans, on va être encore dans le même fouillis, là. Mm-hmm. La même affaire, on n'aura jamais appris de ça?
Bonne question. Écoute, j'ose espérer qu'on aura appris, mais ça a été de nos erreurs, mais ça a été quand même une expérience collective assez impressionnante. T'sais, on a fait de la société une sorte de laboratoire et on a vu qu'il y a des gens qui étaient prêts à vendre leur mère pour avoir une place à l'hôpital. Ouais. C'est pas chic là, ce qui s'est passé. Et il y a sûrement des gens qui sont gênés un peu de leur comportement. Moi, si j'ai blessé certaines personnes en ayant des propos très critiques de l'instinct québécois à ce moment-là, je m'en excuse, mais en même temps, il fallait qu'il y ait des gens qui osent parler. Là, ouais. Parce que c'était trop unanime. Écoute, 95% d'unanimité dans l'espace public. Mm-hmm. Et tout ce qui s'est passé quand les funérailles, aussi les gens qui n'ont pas pu être auprès de leurs proches mourants.
La dame du Saguenay qui a fait ses adieux.
La coiffeuse? Ou...
Okay, non. La femme du Saguenay qui a fait ses adieux dans le stationnement.
Ben oui.
Pour que les gens puissent venir la voir puis dire un dernier au revoir. Ça, j'ai trouvé ça atroce. Je peux pas croire qu'on pouvait pas accommoder cette femme-là qui était en fin de vie. Ben, on l'a pas fait. On l'a laissé dans le stationnement.
Non, puis le virus, il se propageait. Là, hein? On s'est fait croire que tout cet ensemble de rituels, de mesures-là, pouvaient nous protéger du virus. Mais la vérité, là, c'est que à partir du moment où vous aviez quelqu'un qui venait réparer votre sécheuse chez vous, vous étiez en contact là, avec l'humanité en général. Là.
Je te raconte pire que ça. Quand il y a eu la pandémie, moi, la radio de soir s'est terminée. Ils ont dit ben les commanditaires sont plus là. Ce qui fait en sorte qu'on va garder comme le matin, le midi, puis l'après-midi pour ce qui est de la radio. Puis le soir, ben on va te mettre au chômage pendant un certain temps. Puis on va te rappeler. Tu vas être le premier à rappeler. Puis parce que Moret devait prendre ses vacances à l'été. Puis on dit, c'est toi qui vas faire ses chiffres, ce qui fait en sorte que tu vas être le premier à rappeler. J'ai dit, OK, c'est beau. Fait que moi, je suis parti, mais je me suis dit, tiens, je vais vivre d'autres expériences que je n'aurais pas la chance de vivre. Fait que je suis devenu brancardier dans un CHSLD.
Wow.
Je suis devenu agent de sécurité dans des foyers de personnes âgées. Privé, c'était les châteaux Bellevue. Fait que je me suis promené un peu à travers le Québec avec les CHSLD puis les châteaux Bellevue. Et au début, je me souviens, j'étais à la porte et je devais intervenir dans le cas où les familles devaient venir rencontrer les patients qui étaient à l'intérieur. Et là, les familles arrivaient en disant « On aimerait ça voir notre mère, notre père. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Puis mm-hmm. on aimerait juste leur parler là, dans le cadre de porte, juste ici. On comprend que vous voulez pas que le virus rentre. » Puis là, on disait, ben non, nous, les informations qu'on a, c'est qu'on n'a pas le droit de laisser rentrer aucune personne provenant de l'extérieur. Et là, la dame me regarde dans les yeux, Jérôme, puis elle me dit, ouais, mais les infirmières, là, ils résident-tu là? Non. Les infirmières, ils ont-tu des familles? Ils ont-tu des enfants qui vont à l'école? Non. Ben, eux autres, ils peuvent laisser rentrer.
Ben non, regarde, tu vois comment c'était.
Puis là, je regardais personne. Puis là, elle me disait, mais qu'est-ce qui me dit que toi, tu l'as pas le virus, puis que tu côtoies mes parents? Sérieux, c'était atroce, Jérôme, de vivre ça puis de dire « mais ça n'a pas de bon sens, mais on a mis ça en place pareil. »
Ah oui, on s'est fait croire qu'une existence hermétique, à 100% hermétique, était possible. C'est faux. Moi, ma femme était infirmière, puis elle a travaillé, quand on est revenu au Mexique, elle a fait son effort de guerre, comme il disait, puis elle travaillait avec des patients. Puis tu sais, chaque jour, elle rentrait d'un hôpital, d'un des plus grands hôpitaux de Mexico, l'hôpital 21, Siglo 21. Puis, tu sais, on s'est jamais posé la question, là, tu sais, est-ce que, chérie, peux-tu mettre ton uniforme directement dans le lavage? Ou, tu sais, qu'est-ce que tu veux? On vivait. Puis, honnêtement, c'est drôle. Moi, je pense avoir attrapé la COVID en revenant au Canada l'année passée lors d'un séjour de 3 semaines. Donc, c'est quand même très ironique. Tu sais, tu vis dans une des plus grandes villes du monde.
Ouais.
Ta femme était infirmière, puis tu sais, c'est sûr que j'étais en contact avec la COVID, mais c'est, disons, les symptômes sont apparus au Canada, et puis j'ai pogné une COVID au Canada. Alors que, bon, on était censé être les mieux protégés, les plus vaccinés, puis etc. Donc, la vie, c'est bien relatif, tu sais. Puis à Noël, ben, on a fêté des Noëls au Mexique avec toute la famille, puis... Tu sais, le statut vaccinal, par exemple, c'est pas quelque chose dont on discutait. Tu sais, la cousine de ma femme, il demandait pas si elle était vaccinée ou non. Là, tu sais, c'est pas partie de la discussion. Par exemple, les Mexicains sont très... c'est très paradoxal. C'est paradoxal. Par exemple, ils portaient beaucoup le masque à l'extérieur. Les Mexicains ont été des grands adeptes du masque. Mm-hmm. Mais les gars portent le masque dans la rue et montent dans des réunions de famille, ils se mettent les mains dans un chip, dans un bol de chip, avec de 30, masque. 40 personnes. Où les gars sont au stand de ta cause, les gars et les filles, bien évidemment. Et tu sais, les gens mangent avec leurs mains, donc tu touches la lime, blablabla. Tu sais, donc c'est une espèce d'orgie contaminatrice épouvantable, tous ces stands à ta cause-là, et puis ils n'auraient jamais interdit ça. Ouais. C'est comme des buffets, là. Donc c'était super contaminant. Puis le gars, tu sais, il est au stand à ta cause, en plein milieu de la ville de Mexico, il y a 40 personnes autour. Puis après ça, il repart, puis il met son masque. T'sais, tu dis, franchement, là, Juan, c'est pas ta meilleure. Là. T'sais, t'es pas un grand scientifique, mon Juan. Là.
Non, c'est ça. T'as-tu été marqué, toi, par cette pandémie-là, Jérôme? T'sais, au niveau personnel, là, t'étais là, tu parlais de liberté d'expression, tu disais qu'il fallait aussi entendre les gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec le consensus scientifique. Puis je voyais que tu te faisais attaquer de toutes parts. Là. T'sais, moi, quand tu te présentais à la station, puis que t'émettais des commentaires. En majorité, les gens étaient vraiment pro-Jérôme Blanchet-Gravel, mais il y avait tout le temps comme 5 à 10 % des personnes qui disaient « Ça n'a pas de bon sens, 99 % des scientifiques s'entendent, mais là, lui, il veut que le 1 % se fasse entendre aussi, ça n'a pas de bon sens. » Ça t'a-tu marqué personnellement en disant « Voyons, Chris, le monde est donc bien rendu fou, là. »
Ouais, bien la distance, justement, de faire du Mexique m'a aidé dans le sens où l'espèce de chape de plomb qu'il y avait au Québec, cette ambiance mortifère, m'affectait moins parce que, bon, évidemment, notre cellulaire nous suit, là. Mm-hmm. Mais je me disais toujours, bon, il y a du monde qui m'insulte sur les réseaux. En même temps, je suis habitué. Ça fait quand même 10 ans maintenant que je suis comme dans l'espace public. Bon, avant, j'étais pas très connu avant, mais ça fait 10 ans que, disons, que j'aimais des opinions dites controversées dans un contexte québécois. Donc, j'étais préparé mentalement, je pense, mais le fait d'être au Mexique, à Oaxaca, aussi la région de ma femme, d'où vient ma femme, ça me permettait, bon, je mets mon cellulaire de côté pendant un certain temps. Là, on est au Mexique, okay. On va manger je décrochais, en gros, là. Ouais. Donc, je décrochais. Le fait d'être ailleurs géographiquement me permettait de décrocher mentalement. Pas toujours, mais... C'est une distance. Puis c'est ça que je craignais, je dois l'avouer. T'sais, en revenant au Québec, c'est sûr, je me disais, cette distance-là me protégeait aussi un peu de la polémique. Donc en revenant, t'es plus dedans. Là. Tu peux moins faire, mm-hmm. Bon, ça c'est le Québec qui sa bulle mentale, c'est le contexte québécois, ça c'est le Mexique, d'autres réalités. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'on là, je suis plus dans le bain. Là.
Ouais. Et de donner régulièrement ton opinion comme ça, est-ce que ça t'a fermé des portes?
Oui, à l'université d'abord, c'est sûr, très tôt. Je me suis fermé beaucoup de portes, je m'en suis ouverte beaucoup d'autres aussi. Mais au Québec, c'est difficile. T'sais, franchement, les Québécois ne le savent pas, mais c'est vraiment un endroit particulier, le Québec. Démographiquement, on n'est pas très nombreux. Il y a deux grandes villes, mm-hmm. 2,5. Donc, c'est sûr qu'on est une grande famille, comme on dit. Là. Donc, c'est difficile d'être différent au Québec. Pas juste différent culturellement. On parle beaucoup de diversité culturelle, mais la différence d'opinion... On travaille beaucoup sur notre acceptation de la diversité culturelle, mais il faudrait travailler sur notre
diversité des opinions.
Ouais, c'est ouais. Ça. Mais oui, je me suis fermé des portes, oui. Par exemple, la publication Québec de livres. Mon dernier livre, il a fallu que je le publie en France parce qu'au Québec, bon, il y avait une certaine critique du Québec dans Un Québécois à Mexico. Et effectivement, là, puis on sait que les milieux intellectuels sont beaucoup dominés par la gauche. Mm. Donc, à partir du moment où on vous associe à la droite, entre guillemets, ben là, ça devient plus difficile. Mais en même temps, c'est ça. Moi, j'essaie de pas trop vivre mentalement au Québec. Je suis jamais en Amérique latine, en France. Puis c'est sûr, c'est plus ouvert. Puis les gens sont moins susceptibles aussi. C'est pris moins personnel, les opinions divergentes dans d'autres pays.
Mais,
peut-être pas dans tous les pays, mais disons en France, en Amérique latine, c'est ça.
Ouais. Parlons de la France, là, que ce soit à la radio ou à la télé, il y a des débats. Des experts qui sont invités puis qui n'ont pas du tout les mêmes points puis sont pas nécessairement en accord puis ils réussissent quand même à jaser. Puis j'ai l'impression que ça, c'est au profit de l'auditeur puis du téléspectateur. Parce que peut-être que oui, tu es un peu plus d'accord avec un, mais tu vas apprendre aussi des choses de l'autre. Puis ça se peut des fois qu'on change d'idée, qu'on n'ait pas toujours raison puis qu'on se dise ah, « OK, tu vois, j'avais pas pensé à cette option-là. » Puis effectivement, je pourrais pencher de l'autre côté assez facilement. Je pense qu'on gagne à avoir une diversité d'opinions, mais ici, on dirait qu'il y a toujours un consensus qui s'installe, puis on dit non, on va y aller. Puis, tu sais, à titre d'exemple, là, je prends le Canada, les États-Unis, puis le Québec, là, tu sais, non, quelqu'un qui est né biologiquement homme ne peut pas porter un enfant. Mais là, c'est rendu que dans certaines communautés, si tu dis ça, tu peux te faire bannir, là.
Oui, non, écoute, l'emprise politiquement correcte est phénoménale au Canada. C'est un laboratoire du
c'est biologiquement, un homme ne peut pas avoir d'enfant. Un transsexuel qui est né dans un corps de femme puis qui se considère maintenant comme un homme peut avoir un enfant. Mais un homme, à la naissance, ne peut pas avoir d'enfant. Mais juste de dire ça, c'est une vérité, mais c'est pas bien reçu nulle part.
Non, puis par exemple, quelqu'un qui aurait changé de sexe, qui tombe malade, et il va falloir qu'il y ait un traitement médical adapté là, à son sexe biologique.
Mm-hmm.
Donc, quand vous êtes malade, si vous êtes né homme, il va falloir que vous ayez un traitement contre le cancer avec un dosage adapté à un homme.
Ouais.
Donc, est-ce que vous allez nier, est-ce que vous allez prendre le traitement pour les femmes du cancer? Ben, je comprenais que je ne suis pas médecin, là, mais vous comprenez que le sexe a une importance en médecine.
Ouais. Ah ouais.
Attends, est-ce que vous allez refuser un traitement, par exemple, pour traiter votre maladie qui serait pas adapté à votre réalité biologique? Non, mais il faut quand même, mais ça va loin, là.
Oui.
C'est fou, raide.
Tu sais, quelqu'un qui m'avait fait la remarque, je l'avais trouvé drôle, en même temps, peut-être un peu cruel pour certains qui vont l'entendre, mais tu sais, l'avenir de l'humanité dépend d'une île, et sur cette île, il y a 100 hommes et 100 femmes transgenres. Ben, dans 100 ans, il ne restera plus personne. Et dans 200 ans, les corps qu'on va retrouver là, ça va être le corps de 200 hommes. Parce qu'il n'y aura plus, de peau, il n'y aura plus rien, là. Ça va être le corps de 200 hommes. Donc, tu sais, moi, je pense qu'il ne faut jamais nier la biologie, là. Pour ce qui est du cerveau, le cerveau est complexe. Si quelqu'un se sent femme ou homme, c'est toujours bien de ses affaires, puis c'est pas à moi de juger. Mais là, d'essayer de nous faire avaler que un homme peut avoir un enfant, un homme biologiquement, non, il ne peut pas avoir d'enfant.
Moi, ce que je trouve terrible dans cette propagande-là, c'est qu'elle s'attaque aux enfants. Mm. C'est-à-dire que les gens fassent évidemment ce qu'ils veulent à partir de l'âge adulte, mais convaincre des enfants en bas âge, puis tu sais, les mêler psychologiquement, ça, c'est vraiment malsain. C'est vraiment malsain.
Est-ce qu'ils font ça ailleurs aussi?
Oui, ça commence.
Toi qui s'est promené, ouais.
Ben, mais l'affaire, c'est que ça pénètre moins la population. Mais au Mexique, par exemple, oui, ça commence. Là, j'ai vu le ministre des Affaires extérieures, Ebrard, qui est peut-être appelé à succéder au président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui récemment faisait la promotion du mouvement LGBT. Et là, je me suis dit, ça commence. Mais c'est les élites. C'est-à-dire que c'est les élites mexicaines blanches qui ont accès à l'éducation, qui commencent à faire la promotion de ce genre d'idées-là, mais la population...
Ça, c'est descendants des conquistadors. Là.
C'est ça, okay. Les Espagnols, essentiellement. Mais tu sais, la population comme telle, elle, complètement décalée. Je comprenais que les gens qui veulent juste finir, avoir de quoi manger à la fin de la journée...
Ils sont pas là.
Ils n'ont rien à foutre. Là, c'est... Mm. Puis une formule que j'utilise souvent, c'est au Mexique, avant d'avoir des toilettes neutres de genre, ils vont commencer par avoir du papier de toilette aux toilettes. Parce que dans les écoles au Mexique, dans 80% des écoles primaires et secondaires, il n'y a pas de papier de toilette. Il faut que les écoliers... C'est-à-dire, on donne un rouleau à son enfant dans son sac le matin, comme on lui donne une boîte à lunch. Donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas là du tout. Là. Mm-hmm. Le transgenrisme, c'est une idéologie de riches. C'est sûr. Donc, c'est sûr que quand on voit la gauche prôner la décroissance économique... Oui, mais s'il n'y avait pas de croissance économique, vous ne pourriez jamais avoir cette
réflexion-là.
Non, impossible. Donc, quand il n'y a plus de croissance économique, vous n'aurez pas l'argent pour faire tous vos projets. Là, ça prend de l'argent pour ça. Là, c'est clair. Ouais. C'est un sport de riches.
Hey, je voulais te parler de Libre Média. D'ailleurs, c'était pour ça que je t'invitais. Là. Je voulais jaser un petit peu avec toi avant, mais on le fait le soir entre 18h et 19h. On fait ça, formule podcast. Je ne connaissais pas Libre Média avant. Moi, je vais t'avouer que...
Ça fait juste un an.
C'est ça. Quand je t'ai entendu parler de ce nouveau journal-là qui est disponible sur le web, Libre Média, je me suis dit, ah, ben tu sais, je ne savais pas que ça existait, je vais aller voir. Puis là, ben c'est toi qui est derrière ça. Et je veux vous féliciter parce que, sérieusement, vous avez mis quelque chose en place rapidement qui est un produit d'une extrême qualité. Puis vous touchez à pas mal tout, là, avec des entrevues vidéo. Vous avez aussi des papiers comme on peut voir.
D'opinion.
De l'opinion, mais.
Des articles de journaux.
Des journalistes aussi.
De la presse, oui.
Je trouve ça franchement intéressant comme produit. Est-ce que. D'où t'es venue l'idée de partir ton propre journal?
Bien, d'abord, c'est pas moi qui ai le fondateur de Libre Média. C'est quatre personnes qui, au départ, sont venues me chercher, mm-hmm. me proposer, dans le fond, d'être rédacteur en chef de Libre Média. Ces quatre personnes-là se sont retirées il y a quelques mois. C'est des personnes qui étaient, disons, moins intéressées à tout ce qui est l'administration, puis ouais. Bref.
Les autres, ils avaient une idée.
Ils ont eu une idée, une très bonne idée.
Ouais.
Et moi, ça coïncidait avec la fin d'un emploi. Donc, j'ai accepté. Je trouvais que l'idée était excellente. On sait que, bon, durant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui avaient un appétit pour plus de liberté dans la presse comme telle et en général. Donc, et là, c'est sûr que j'ai donné ma couleur aux médias. Là. Donc, c'est très international, Libre Média, mais c'est aussi très national. Essentiellement, c'est un site avec effectivement des textes écrits et une chaîne YouTube où on publie nos vidéos. On a même déjà un pôle parisien, en quelque sorte, de Libre Média avec Anne-Laure Bonnel, qui, elle, à l'origine, qui est une correspondante de guerre et qui, pendant un certain temps, même, est allée en Ukraine pour Libre Média. Elle était à l'est de l'Ukraine. Donc, c'est assez incroyable de voir ce qu'on peut faire avec encore, aujourd'hui, peu de ressources, encore des ressources limitées, financières et humaines, mais c'est assez impressionnant. Puis, on a des reportages même sur l'Amérique centrale.
Ouais.
C'est assez fou, ça, ce qu'on fait. On a fait un petit bilan récemment pour le premier anniversaire. Et je pense qu'on avait eu des reportages dans 12 pays différents. Là. C'est assez incroyable.
Ouais. Puis, vous faites comment pour financer ça?
Essentiellement des abonnements, des dons et de la publicité. Mais c'est 100% indépendant. On n'a aucun revenu, aucune subvention gouvernementale. Puis on ne veut pas aller là parce que les gens, d'abord, je pense qu'ils tiennent beaucoup à notre indépendance. C'est notre marque de commerce. C'est 100% indépendant, Libre Média. Puis vraiment un franc-parler, mais aussi un grand sérieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement dans la confrontation, on est dans la réflexion. Puis c'est très centré autour de l'humain. Hein? On a un volet un peu psycho. Puis on essaie d'ouvrir aussi le Québec à d'autres choses, c'est-à-dire amener d'autres perspectives. T'sais, par exemple, on a des textes lus à l'étranger. Ça, c'est des traductions de textes parus dans des journaux ailleurs dans le monde. Bon, évidemment, je dois admettre qu'il y en a beaucoup qui viennent de l'espagnol,
ouais.
par la force des choses. Donc, c'est ça, essayer d'ouvrir à d'autres perspectives, d'autres visions du monde, pour faire une espèce de brainstorm permanent ouais. sur l'état des choses.
Puis, est-ce que vous vous êtes positionné sur l'échiquier gauche-droite ou vous autres, ce que vous mettez là, c'est en majorité, quand on fait la moyenne, ça se situe à peu près au centre parce qu'il y a des gens de la gauche, des gens de la droite?
Mais c'est sûr qu'on est considéré comme plus à droite, mais...
Est-ce que c'est une droite qui est économique?
Pas nécessaire. Oui et non. On a effectivement, par exemple, des gens de l'Institut économique de Montréal qui vont venir s'exprimer des fois. Donc ça, c'est de la droite économique, de la droite libérale. Mais c'est plus subtil que ça. On a toute en relation internationale, on n'est pas nécessairement à droite. C'est-à-dire que on essaie de faire une réflexion sur la reconfiguration de l'ordre international, c'est-à-dire la montée de la Chine, de l'Inde. T'sais, on est beaucoup dans une bulle occidentale. T'sais, on pense que tout le monde appuie l'Ukraine dans le monde, mais c'est pas vrai. L'Occident est seul dans sa guerre contre la Russie. L'Inde n'appuie pas les États-Unis ni l'Ukraine, la Chine non plus, la Russie non plus, l'Iran non plus. Le Brésil non plus, vous comprenez, ça fait un paquet de monde. Là. Donc, quand le président du Brésil va récemment en Chine, tu vois, ça c'est passé sous le radar.
Ouais. Vous essayez d'exposer les deux côtés?
Oui.
Ouais.
Ouais. Ben, on essaie aussi d'aller là où les gens ne vont pas, d'exposer le revers de la médaille ou la face cachée de certains phénomènes. Donc, on a osé, par exemple, s'attaquer à à l'influence de l'industrie pharmaceutique sur la question trans. Parce que le changement de sexe, c'est très, très peu dit, mais c'est une industrie aussi médicale et pharmaceutique. Il y a des très, très grandes compagnies pharmaceutiques qui vendent ce qu'on appelle les bloqueurs d'hormones. Aux États-Unis, il y a des médecins qui sont devenus super riches en pratiquant des chirurgies plastiques sur des adolescents. Il y a une chirurgienne très connue à Miami, là, dont j'oublie le nom, Sid Gallagher, je pense, une médecin qui est sur TikTok, par exemple, et qui fait plein de vidéos auprès des jeunes pour les convaincre finalement de se faire amputer les seins, par exemple, chez les filles. Et donc, il fait un paquet d'argent en convainquant des jeunes de se faire amputer des membres. C'est quand même grave.
Ouais. Mais tu sais qu'en parlant de ce sujet-là, nécessairement des gens qui vont prendre ça puis qu'eux autres, ils militent pour ça sans nécessairement réfléchir puis de regarder tes affaires, vont dire « Non, non, moi, ça, ce média-là, faut que ça ferme. »
Ouais, ouais.
Sans nécessairement regarder ce que tu exposes puis tes propos, ils vont dire « Non, non, t'as peu, là, il est en train de militer contre ça, ça n'a pas de bon sens. » Puis ils vont vouloir te fermer. Ça doit déjà avoir commencé.
Ou non, pas vraiment.
Non?
J'ai pas encore ressenti ça. Puis, et ça va falloir qu'il pousse fort parce que, comme je te dis, moi, je me suis fait une carapace. Tu sais, sans vantarder, je peux en prendre. Tu sais, il va falloir qu'il pousse vraiment fort là, pour nous faire céder sur certains sujets. Mais oui, c'est vrai que forcément, on est diabolisé. Puis, Anne Bonnel en France, qui est notre correspondante à Paris, en Ukraine, c'est sûr qu'elle, on l'avait accusée, par exemple, d'avoir un côté pro-russe parce que, bon, elle avait osé exposer le revers de la médaille en Ukraine, c'est-à-dire que, évidemment, des cas de torture, il y en a des deux côtés. Forcément, c'est une guerre. C'est quand même fou d'avoir à apprendre ça aux gens. C'est comme si une armée contre l'autre, puis seulement une armée pouvait torturer et l'autre ne le faisait pas. T'sais, franchement, là, c'est vraiment très, très bébé comme perspective, là, vous comprenez? Donc, des fois, on se surprend à exposer ce qui devrait être des banalités. C'est-à-dire, apprendre aux gens qu'il y a des cas de torture des deux côtés dans une guerre, tu dis vraiment, on est dans un film de super-héros, les amis. Là.
Ouais. Mais moi, ce que j'aime, c'est d'avoir les deux côtés. Ce qui me fait peur, c'est quelqu'un qui ne veut pas savoir l'envers de la médaille. Ces gens-là me font peur et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Puis malheureusement, ça pollue dans nos journaux. Tu sais, je regarde les journaux actuellement. Pensons à La Presse, pas rentable. Ils ont de la misère. Ils ont besoin de l'argent des gens. Pensons au Devoir, pas rentable, ils ont de la misère, ils ont besoin de l'argent des gens. Le Soleil, même affaire. Tu sais, ces gens-là ne se posent pas les questions à savoir, mais pourquoi nos lecteurs ne nous lisent plus? Ils disent, attends un peu, nos lecteurs doivent pas nécessairement nous lire, mais nous, ce qu'on veut, c'est que l'argent rentre pareil pour qu'on continue à laisser place à nos idées, à nous. Là, vous autres, vous faites le contraire. Vous êtes capable d'exposer maintenant les deux côtés, et c'est la raison pour laquelle je trouve ça formidable, Libre Média. Si vous êtes capable de le faire tout le temps. Là.
Bien gentil, très apprécié. Puis ceux qui voudraient nous caricaturer en présentant comme un média de droite
ils vont le faire.
Ils vont le faire, mais on sait que c'est ridicule parce que, tu sais, c'est ça. C'est que, par exemple, à la soirée, étant encore jeune, bon, ils ont essayé de nous caricaturer, puis ils ont sorti plein d'informations fausses dans leur espèce de topo, si vous voulez, humoristique sur le média. Mais c'est très sérieux, c'est-à-dire que ils réussiront pas parce qu'on fouille on fait les choses de manière très sérieuse. T'sais, par exemple, on a récemment un dossier sur l'Azerbaïdjan, la guerre du Haut-Karabakh. T'sais, vous pouvez essayer de vous moquer de nous, mais vous savez même pas de quoi on parle. C'est-à-dire, si vous savez pas c'est quoi l'Azerbaïdjan, puis vous voulez vous foutre la gueule de Libre Média, allez donc commencer par lire un article sur l'Azerbaïdjan. T'sais, vous comprenez? Fait que, tu sais, ils essaient comme de nous caler, mais là, ils regardent les articles, OK, Brésil, tu sais, tu te dis, OK, mais on comprend pas ce qu'ils disent, là, mais tu sais, évidemment, c'est accessible en passant pour les auditeurs, là, c'est quand même fait pour le monde, Libre Média, mais il y a des sujets précis qu'on aborde et qui sont importants.
Ouais.
Puis on essaie aussi, c'est ça, d'aller où est-ce que les autres médias vont pas. Par exemple, la question au Karabakh, des crimes de guerre très, très graves qui sont commis actuellement et personne n'en parle. Donc, on parle que de l'Ukraine. Donc, nous, on essaie de regarder, attention, il y a des chrétiens qui sont victimes actuellement d'un génocide, des Arméniens.
Oui.
Donc, c'est et la communauté internationale en parle pas vraiment non plus. Donc, on essaie de mettre la lumière sur, c'est ça, des zones d'ombre de l'actualité. C'est ça. Donc, c'est accessible, mais c'est un média assez sérieux également. Ouais. C'est sûr, vous allez pas, c'est pas un niveau journal de Montréal. Je veux pas dénigrer, là, mais...
Non, c'est un peu plus intellectuel, c'est plus recherché. Allez-vous parler, je sais pas, moi, du droit à l'avortement?
On oserait.
Ouais. Parce que là, ça commence encore, ça revient. Là.
Ouais, puis il y a la fameuse conférence, tu as vu, qui a été annulée, un groupe de chrétiens au centre des congrès.
Ouais. Ça me fait peur encore. Peur, c'est une manière de parler, mais je veux dire que le gouvernement décide de ce qui doit être dit ou pas entre ses murs. Je trouve ça particulier. Quand je jase avec des gens, moi, je la connais, la loi sur l'avortement. Mm-hmm. C'est ma job de savoir ce genre d'affaires-là. Puis je leur demande, êtes-vous pour ou contre l'avortement? Très souvent, puis avec raison, ben oui, on est pour l'avortement, là, surtout dans des cas d'agression sexuelle et tout ça, OK? C'est quoi les lois sur l'avortement au Canada, au Québec? Puis là, ils nous disent, ben, t'as le droit de te faire avorter, parfait, jusqu'à quand? Hé, Chris, Jérôme, j'ai peur là. Quand je leur dis jusqu'à quand, là, ils savent pas. Par contre, ils sont pour l'avortement. Mm-hmm. La réglementation, c'est que tu as le droit de te faire avorter jusqu'au dernier jour avant que ton enfant vienne au monde.
C'est encore ça. Hein?
C'est encore ça. Ça n'a pas changé. Et quand je leur dis ça, Jérôme, leur face là, change du tout au tout. Tout d'un coup, ils ne sont plus tant pour l'avortement. Puis, au Québec, puis il faut être très honnête, là, au Québec, les médecins ne pratiqueront jamais ce type d'avortement-là. Par contre, si la personne est extrêmement déterminée, peut aller aux États-Unis, dans certains États, où ils pratiquent ce type d'avortement-là après 8 mois et demi de grossesse, mettons. Et ils le font. Et les coûts sont payés par l'assurance maladie.
Non, c'est épouvantable parce que tous les parents savent, puis les non-parents aussi, mais évidemment, il y a aussi des gens qui ont des enfants prématurés, des enfants qui naissent prématurés. Donc, si un enfant peut naître prématuré à 7 mois... Mm-hmm. Ben là, on peut s'imaginer ce qui représente un avortement à 8 mois et demi.
Mais je t'expose juste le fait que, tu sais, quand il y a quelque chose d'établi, c'est-à-dire, ben, tu sais, nous, on est une société où on a le droit à l'avortement. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, c'est correct. Mais faut que les gens puissent s'éduquer là-dessus, à savoir c'est quoi exactement la réglementation, puis jusqu'à combien de mois, puis comment ça fonctionne, pour que tout le monde puisse se faire une tête là-dessus. Moi, que des regroupements veulent faire des rencontres, puis parler d'avortement, puis que le gouvernement arrive en disant « Non, vous n'avez pas le droit de parler de ça, puis c'est pas vrai que vous allez faire ça entre nos murs », je trouve ça très dangereux.
Non, mais c'est la culture de l'annulation.
Parce que si on accepte ça, Jérôme, ils vont le faire sur d'autres choses aussi.
Ah, c'est sûr, c'est un précédent. Alors, il faut toujours se méfier de ce genre de précédent. Puis, des chrétiens, en passant, il y en a. T'sais, comme je disais à Radio X ce matin, c'est que... on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Les chrétiens sont nombreux, les chrétiens évangéliques en particulier, actuellement, c'est des groupes très, très en fort, mm-hmm. dans le sens où ils sont nombreux. Il y a sans doute parmi nos auditeurs actuellement qui sont des chrétiens évangéliques. Et ces gens-là ont le droit d'exister, ils ont le droit à un point de vue aussi. Et ils sont des millions dans le monde et en Amérique, des millions. Donc, au Québec, encore là, dans notre bulle mentale, on peut bien faire comme si on est bon pour se moquer de la religion au Québec, tout ça. Bon, on s'est débarrassé rapidement du catholicisme avec la Révolution tranquille. Mais ces gens-là sont là. Et si on veut aussi accueillir plus d'immigrés, bien, il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui sont de fervents croyants et qui ils sont de ce qu'on appelle des pro-vie, les amis. Ouais. Donc, si vous voulez faire du Canada un pays de 100 millions de personnes... Parmi ces 100 millions de personnes-là, il y a bien des chances que 50 millions d'entre eux soient peut-être un peu pro-vie.
Ouais.
Disons 30 %, mais vous ne ferez pas un pays d'immigration sans avoir des croyants puis des gens qui sont chrétiens ou musulmans ou qui disons, questionnent ce genre de pratiques-là. Donc, qu'est-ce que vous faites, les amis, là?
Pourquoi ils ne se posent pas la question avant?
Bonne question.
Tu sais, de voir que le gouvernement, c'est, avec Mme Proulx qui est là puis qui dit non, il est hors de question qu'on discute de ça entre nos murs, de voir que le gouvernement ne se pose pas ce type de questions-là avant de réagir. Bon, ben garde, ils ne pensent pas nécessairement comme nous autres, mais ils ont le droit de penser ça. Puis il n'y a pas aucun crime qui se commet à l'intérieur de ces murs-là. Là. Et c'est entre autres ce que le directeur général du Centre des congrès a dit, c'est que moi, là, je loue des salles, là. À savoir ce qui se dit à l'intérieur, ce qui se fait à l'intérieur, ça ne m'intéresse pas tant aussi longtemps que tout est légal. Il a raison. Il a vraiment raison.
Oui, oui.
Mais le gouvernement qui se mêle de ça.
Est-ce qu'on aurait osé faire ça pour un groupe de musulmans, par exemple, interdire un rassemblement de croyants, mais pas des chrétiens, des musulmans? Je pense que ça n'aurait pas passé de même.
On n'aurait jamais fait ça aux musulmans.
Je pense pas.
Non, parce qu'on se serait fait...
Ni aux hindous.
On se serait fait traiter de raciste.
Probablement pas à des groupes juifs non plus. Là, des chrétiens, ça passe encore, mais non, écoute, c'est vraiment une atteinte à la liberté d'expression pure et simple. C'est du wokisme radical. C'est comme les gens qui veulent faire annuler des conférences. Ben, c'est ça qu'on a fait, faire annuler une conférence. Mais en général, les gens qui font annuler des conférences, c'est des extrémistes dans les universités. T'sais, c'est pas chic que le gouvernement du Québec ait fait ça. Là. C'est une pratique de radicaux contre la liberté d'expression, etc. C'est vraiment un précédent déplorable. Heureusement, le Journal de Montréal, tu sais, il y a beaucoup de gens, bon, toi-même, qui ont pris la parole pour dénoncer ça. Mais non, il faut vraiment faire attention, il faut se méfier de tous ces précédents-là pour pas que ça se répète.
Je parlais avec quelqu'un de Québec solidaire sur Twitter par messagerie, puis on parlait de la nationalisation des médias. T'sais. Puis eux, ils veulent vraiment que les médias soient nationalisés. Là, que le gouvernement ait un droit de regard sur tous les médias qui sont là.
Un peu, Québec solidaire a proposé ça?
Je sais pas s'il l'a proposé, mais ce qu'il me disait par messagerie, c'est que la nationalisation des médias ferait en sorte que les médias pourraient rester là et être présents, puis avoir des ressources financières qui pourraient permettre à des journalistes de faire des enquêtes un peu plus précises, là, t'sais, des enquêtes un peu plus longues. Puis je disais, mais attends un peu, c'est pas déjà ça qu'on a, des médias nationalisés. Le gouvernement a toujours son mot à dire sur ce qui est dit et fait dans les divers médias. Puis j'avais fait référence à François Legault qui avait appelé un journaliste de Radio-Canada en disant, écoute, ton papier, il est vraiment pas correct, puis j'aime pas ce genre de papier-là concernant mon administration. C'est un peu ça, on est un peu nationalisé. Là. On est rempli d'activistes, on est rempli de militants dans nos médias.
Mais Radio-Can, c'est nationalisé, on s'entend, là.
Ben exact, oui, ben oui.
Et, de facto, là.
Ben, tu sais, je pense que les stratégies actuellement de Québécois d'enlever le bulletin de nouvelles de 18h la fin de semaine, de 17h ou 18h la fin de semaine à Québec, ça fait partie d'une stratégie pour avoir un peu plus de subventions puis se faire dire, hey, ça nous prend un bulletin de nouvelles à Québec, mais ça va venir avec telle affaire. C'est sûr qu'ils vont revenir avec un bulletin d'information. Pelado, il se laissera pas couler, là. Il va juste prendre l'argent du gouvernement.
Mais ça a l'air de mal aller quand même pour les grands médias depuis plusieurs années.
Mais il le mérite, Jérôme.
Non, mais je sais bien.
D'accepter dans tes murs.
Mais c'est bon que tu puisses le dire aussi ouvertement.
Oui, d'accepter qu'il y a des activistes qui essaient de faire passer juste leurs idées dans leurs écrits, puis de dire « Ah, ben ces gens-là vont être régulièrement lus. » Non, si tu penses pas, si tu écris pas des papiers sur ce qui intéresse la population n'est pas obligée de te lire.
Ben non.
Surtout s'ils payent pour le dit papier.
Mm-hmm. Mais en plus, à part de ça, c'est un modèle économique qui est de moins en moins viable avec des conventions collectives des années 60. Pas dans le cas de Québécois, il y a un gros lock-out, on se rappelle, historique. Là.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut être beaucoup plus flexible. Je pense que l'avantage du libre-média à long terme, qui est encore un petit média, c'est sa flexibilité, tout ce que permet la souplesse du web, on s'adapte très rapidement, on est beaucoup multitâche, tu sais. Le temps où, par exemple, il fallait une équipe de tournage avec 5-6 personnes, quelqu'un qui tient la perche, qui est payé juste pour tenir une perche à 70 000 par année, qu'une convention collective est backée par le syndicat.
Ouais.
Je ne sais pas si vous comprenez aujourd'hui. Moi, mon vidéojournaliste, Francis Denis, à Libre Média, c'est le cabéraman, c'est la personne qui fait le son, c'est la personne qui fait le montage. C'est sûr que vous avez un monteur, une personne qui s'occupe du micro-cravate, puis l'autre qui fait ci, qui fait ça. Là, vous avez... Vous payez 5 personnes. Aujourd'hui, il y a une personne qui peut faire ça parce que les moyens techniques le permettent. Donc, c'est sûr que là, Pelado et compagnie, Québécois, Radio-Can sont encore avec ce genre de vieilles méthodes. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que non seulement ils traitent l'information de manière pas toujours très objective, mais.
Ah, mais souvent, ils parlent de modèle économique. T'sais, souvent, ils parlent de choses qui n'intéressent pas le monde.
Ou les grands enjeux, comme j'appelle, là, c'est-à-dire des nouvelles genre un chien alcoolique. C'était quoi l'autre fois, un chien alcoolique?
Ouais. Mais ça, c'est la guerre au clic, là. Mais tu sais, des fois, je lis Le Soleil. Il y a d'excellents journalistes au Soleil, il y a d'excellents chroniqueurs au Soleil. Mais je lis Le Soleil et je me dis, on dirait qu'on vit pas la même chose qu'eux autres. Je parle avec mes chums, je leur dis, est-ce que tu lis Le Soleil? Non. Je parle avec les amis de ma blonde, est-ce que vous lisez Le Soleil? Non. Mais à qui ils parlent?
Je sais pas, mais Le Soleil, on dirait des fois, c'est comme un magazine un peu. Tu sais, je me rappelle d'une une que j'avais photographiée l'année passée. C'était un samedi. La une du samedi, c'était l'ouverture des piscines. Ça, quand t'arrives du Mexique, tout ça, c'est hallucinant. Là, vous comprenez? T'sais, c'était en pleine guerre en Ukraine. Ouais. La une du Soleil, qui est autrefois le journal de la capitale du Québec. Tu sais, Québec, c'est la capitale du Québec, quand même.
Ouais.
Donc, on n'a pas... Et notre journal phare nous dit, c'est ça, que dans le fond, le, à surveiller en fin de semaine l'ouverture des piscines. Tu sais, franchement, là, vous n'avez pas trouvé quelque chose de... Pas pu trouver quelque chose d'un peu plus, dis moins, digne de... d'être abordé, c'est assez incroyable.
Ouais.
À quel point là, être centré comme ça sur son quotidien. Puis le monde qui ouvre des piscines, ils vont peut-être aller consulter d'autres aussi, d'autres magazines ou aller sur le net. Est-ce qu'on consulte le Soleil pour savoir comment ouvrir sa piscine? Je ne crois pas. Là.
Personne ne fait ça. Moi, ce que je retiens, Jérôme, c'est que tu es parti au Mexique, tu es revenu, puis ce que tu mentionnes, c'est aux gens, c'est enlever vos œillères. Là. Il y a d'autres choses qui existent que nos petits problèmes de riches à nous. Puis tu nous exposes aussi parfois l'envers de la médaille. Puis ça fait en sorte qu'on peut se faire une idée. T'sais. Moindrement qu'on est allumé, puis on a plusieurs sources d'informations, on peut se faire une idée sur quelque chose qu'on ne se ferait pas parce que c'est tout le temps traité de la même façon dans nos médias occidentaux. Fait qu'un gros merci d'exister, Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libre Média. J'invite tous les auditeurs à aller consulter Libre Média. Vous allez voir, vous allez être agréablement surpris. Est-ce que tu as des conférences qui s'en viennent?
Oui, c'est ça, le 17 et 18 juin, le 17 à Québec et le 18 à Montréal. C'est une conférence sur l'identité numérique et la monnaie numérique.
OK.
Avec des conférenciers de marque comme Idriss Aberkane. Moi-même, c'est animé par Héloïse Bois, collaboratrice de Libre Média. Il y a également l'avocat Carlo Broussa et des députés européens qui vont venir nous parler de, du passage justement de la monnaie conventionnelle à, au dollar numérique, finalement, là, dans le cas du Canada. Donc, le 17, il reste quelques billets. C'est disponible en ligne. Je pense que ça s'appelle les productions France-Québec. Je pense que si vous tapez dans Google conférence production France-Québec, Idriss Aberkane, Jérôme Marchais-Gravel, ça va sortir tout de suite.
Ou si ils peuvent aller sur tes réseaux sociaux.
À toi, c'est ça.
Tu l'as publicisé pas mal. Donc voilà. Puis pour ce qui est de Libre Média, on y a accès comment?
Libremedia.com avec un trait d'union. Abonnement à partir de 3,69 par mois seulement. Donc à partir de ce prix-là, vous avez accès à 100% des contenus. Puis allez consulter notre chaîne YouTube aussi qui est en pleine expansion. C'est très bon.
Cool! Hey, ça a été une belle heure de discussion. Je te remercie. Puis,
merci à toi.
Bon, on s'en jasera dans quelques temps. Là. Il reste plein de choses à jaser. Puis plein de sujets à venir, j'imagine, qui vont faire parler. Jérôme Blanchet-Gravel, merci. On fait une courte pause, on vient.
Marceau, le soir. Le soir. C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
La preuve, cette semaine, vous pourriez gagner vos places pour voir le spectacle de Guns N' Roses avec Carrie Underwood comme invité spécial. Guns N' Roses au parc Jean-Drapeau le 8 août prochain. Restez à l'écoute pour gagner vos billets.
Boulevard 102.1. Votre pocheur d'étiquette.
Les Capitales sont en action cette semaine et plusieurs promos sont au menu, dont les feux d'artifice et les hot dogs à 1$. Billets à capitaldequebec.com. Les Capitales, c'est plus que du baseball.
Courez la chance de gagner votre achat chez Roulotte Tourmel. En achetant votre prochaine roulotte de rêve chez nous, vous êtes automatiquement éligible à remporter le montant de votre achat jusqu'à concurrence de 100 000$. Hâtez-vous, l'été de vos rêves pourrait rapidement devenir l'année de vos rêves avec Roulotte Tourmel à Château-Richer.
Pour des bières gaspésiennes de qualité, pensez microbrasserie Pit Caribou. La saison des terrasses est de retour et leur fameuse Lollipop aussi. Une bière désaltérante et fruitée à saveur de citron, fraises et framboises. Microbrasserie Pit Caribou. Des bières bonnes à l'année, mais surtout bonnes au soleil.
C'est la folie cette semaine chez LaVue.ca. C'est tellement fou que LaVue.ca t'offre l'examen de la vue gratuit et la monture gratuite. Dépêche-toi de réserver, ça vaut le détour. Promotion disponible à Sainte-Foy, Beauport et Fleur-de-Lys. Détails en magasin du 5 au 11 juin. Véronique Michaud-Petit.
L'été, c'est fait pour se gâter. Se gâter avec le menu estival de Normandin. Du homard en guédille sur pizza ou en poké, de quoi vous faire saliver. Et puis qui dit été, dit chaleur. Savourez la fraîcheur de nos bons repas au quinoa et au fromage de chèvre, au saumon, au poulet mariné ou au General Tao. Et là là, avec autant de plats ensoleillés, Normandin, ça fait plaisir.
Allô, Nissan. Oh, spécial ta cravate.
Eh oui, Karine, c'est en l'honneur de la Sentra SV édition spéciale.
Puis qu'est-ce qui la rend si spéciale?
Ben, sa conduite dynamique, un toit ouvrant électrique coulissant, une calandre en V chromée, des jantes en alliage de 17 pouces.
Ben voilà, elle est spéciale dans le bon sens du terme. Ta cravate, elle...
Es-tu trop intense?
Un petit peu, oui.
Ouais. Louez la Nissan Sentra SV édition spéciale à partir de $329 par mois pendant 24 mois.
Jusqu'au 30 juin, à compte de 2049 valeur de 27 557 sur approbation de crédit, certaines conditions s'appliquent, détails chez Nissan.
Ce samedi, venez visiter l'unité modèle du nouveau projet Le Boisé Bel Air. Des appartements et lofts spacieux, lumineux, avec balcon intime, gym et stationnement souterrain. Le Boisé Bel Air, l'art de vivre entre la ville et la nature. Planifiez votre visite, rfimmobilier.com.
Alex, pourrais-tu aller me chercher?
Ouais, boss.
Puis après, est-ce que tu pourrais passer?
Ouais, c'est bon, pas de problème.
Puis si jamais t'as le temps, peux-tu...
Parfait, ça marche.
Si vos jeunes employés ne posent pas de questions, posez-vous des questions. Pour éviter les accidents du travail, prenez le temps de donner la formation et la supervision adéquate tout en créant un climat où vos employés se sentiront à l'aise de s'exprimer. De plus, de nouvelles dispositions concernant le travail des jeunes sont entrées en vigueur. Informez-vous. Un message de la CNESST.
Boulevard 102, 100 % Québec. On vit pour le rock. Boulevard. Une propriété Leclerc Communication. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Alors voilà, c'est tout pour moi en ce mercredi soir, en espérant que vous ayez aimé la dernière heure en compagnie de Jérôme Blanchet-Gravel. Ça a fait réagir et c'est toujours le fun de voir ça. Donc oui, je le réinviterai dans les prochaines semaines sans aucun problème. C'est un gars avec qui c'est très le fun de discuter. Puis parfois, ben, il nous amène une vision des choses qui... une vision qu'on n'entend pas souvent sur les ondes de radio au Québec ainsi que... à la grandeur du Canada. Donc, un gars super sympathique. Pour ce qui est de ce soir, cette nuit, je vous dirais que la météo, ce sera plate. Minimum de 9 degrés pour ce soir, avec des averses au travers de ça. Pour ce qui est de demain, jeudi, de la pluie intermittente, avec un maximum de 15. En soirée, nuageux, 30 % de probabilité d'averse avec un minimum de 9. Et vendredi, pour terminer la semaine de travail, ce sera nuageux, maximum de 17. La bonne nouvelle, c'est que pour ce qui est de vendredi, on ne parle pas de pluie, samedi non plus, mais dimanche, ce sera la plus belle journée de la semaine. Ce sera une alternance de soleil-nuages avec un maximum de 25 degrés. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer une belle soirée. Et là, on s'en vient, puis on se rejoint demain, 11h30, sur les ondes de Boulevard 102.
Marceau, le soir.
Pensez Océanique Nettoyage pour le nettoyage de vos tapis et carpettes. Effectué avec un camion usine, méthode shampoing-vapeur avec produits biodégradables pour une propreté assurée. OcéaniqueNettoyage.com.
Du midi sans lunch au rendez-vous d'affaires, pensez au Midi Express au District Gourmet. Du mardi au vendredi de 11h30 à 14h, sur nos terrasses ou dans notre cour intérieure, profitez de plusieurs restaurants pour bien manger rapidement. La cuisine de l'Amérique, de la France, du Portugal, de l'Asie du Sud-Est et du Japon, au même endroit. Et oui, des burgers, sushis, tartares, pokéball et fruits de mer, c'est ça le District Gourmet. Pour bien manger, District Gourmet sur route de l'église.
Nouveau logis, nouveau matelas. Matelas Dauphin facilite votre changement de matelas en vous offrant toute une vente. Économisez des centaines de dollars sur nos matelas de grande qualité, plus taxes payées. Matelas Silhouette, format double, ultra confortable, avec plateau Euro et couche confort haute densité, garantie 20 ans, en spécial à 689 $, taxes payées. Livraison gratuite et rapide. La vente déménagement dans tous les matelas Dauphin. La force du fabricant.
Clinique Proderme. Vos soins médico-esthétiques personnalisés.
En juin, obtenez un traitement de cellulite à 25% de rabais à l'achat d'une cure et de 500 $ de rabais par traitement à l'achat d'une cure de rajeunissement iFou au ProLift.
Demandez votre consultation à Lévis-Saint-Georges et cliniqueproderme.com.
Chez Motorisé de la Capitale, tous les modèles 2022 doivent sortir. Faites vite, seulement une vingtaine d'unités neuves restantes. Roulotte et fifth wheel régulière et cargo sous le prix du coûtant.
Dépêchez-vous!
Motorisé de la Capitale, ouvert du lundi au samedi, sortie 305, route Lagueux, mdlc.ca.
Boulevard 102, la radio de toutes, tout le monde, tout le temps.
Jardin de fleurs ou jardin de légumes? Telle est la question. Fanny de ne pas être bien conseillée pour un bouquet de choix. Une Floralie de couleurs. Faites-vous une fleur et passez chez Floralie Jouvence, votre centre jardin sympathique. À Québec et Lévis, ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h.
À la recherche d'une activité à faire en gang? La saison de rafting est commencée chez Expédition Nouvelle Vague.
Venez descendre la rivière Jacques-Cartier, 3 heures de plaisir assuré en rafting, accompagné de guides expérimentés, passionnés et sympathiques. Réservez rapidement expéditionnouvellevague.com.
Québec Brew fête ses 25 ans. Aujourd'hui, pour célébrer, profite d'un bon hot hamburger pour seulement 7,99$. Le hot hamburger à 7,99$, c'est tous les mercredis. Profite-en. On t'attend. Québec Brew, Vanier, Charlebourg et l'ancienne Lorette.
Chez Capital Chrysler, le Grand Cherokee est présentement à 0 % d'intérêt sur 60 mois. En plus, profitez de 10 % de rabais sur les Dodge Durango 2023 et de 25 % sur les Ram Classic 2022. Détails au capitalchrysler.com. On est sur la rue Marais.
Question d'aromatiser ton été, on a créé des vodkas gorgés de saveurs. Ça prend littéralement 5 secondes pour faire un drink. De la glace, ta vodka fit, puis de l'eau pétillante. Opte pour la rafraîchissante limonade sicilienne, véritable chasseuse de nuages, ou la toute nouvelle Fit Punch hawaïen aux arômes de mangue d'ananas et de canneberge qui renversera tes invités à coup sûr. Les cocktails prêts à boire Vodka Fit, disponibles dans une SAQ près de chez toi. Une autre idée originale des créateurs des gins Kepler.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça serait la radio parfaite.
Ben, c'est ça.
Boulevard 102.1, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
102.1.
Vous connaissez le feeling. Les lumières viennent de s'éteindre. La foule se soulève pour en avoir encore. C'est là que la magie opère. Le rappel d'Elo, c'est maintenant. Avec Elodie Derry.
Et bienvenue les potes! Très heureuse de vous accueillir comme ça dans le rappel d'Elo. Tout de suite après Marceau le soir. Marceau qui accueille ses invités toujours pertinents, divertissants, tantôt informatifs. C'est un plaisir d'être là avec de la bonne musique. Donc, le meilleur rock de la ville de Québec, je vous le livre. Et ce, pour les quelques 60 prochaines minutes. N'oubliez pas par texto si jamais il y a quoi que ce soit à signaler. Il y a toujours le 418-971-1021. Ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Une autre journée très mouillée sur la ville de Québec. On nous annonçait un maximum de 13. On n'y a pas touché longtemps. Je vous dirais, le minimum est à 9 pour ce soir. On est dans ces eaux-là. Et demain, la pluie se poursuit de façon intermittente avec un maximum à 15. Faudra attendre à la fin de semaine pour un peu de soleil. Ça irait à dimanche prochain. Pour accompagner la pluie, il n'y a rien de mieux qu'un peu de Nirvana acoustique. C'est dépressif, mais c'est tellement bon. Voici About a Girl. On ouvre une séquence rock à Boulevard 102.1.
I
when she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you wanna love her, just deal with her. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let it go. Cause her boyfriend is the rock and roll. Save her every moment till she has to go. Cause her boyfriend is the rock. Parties, she's working around the clock.
Boulevard 102.1.
Still alive, 6 to 8 years too early.
102.1.
Pour avoir du fun. Le rappel des longs avec Élodie Derry.